السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون
La traduction de ce verset est comme suit. Vous êtes le meilleur peuple suscité pour le bien de l'humanité. Vous enjoignez ce qui est bien et vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. Et si les gens du livre avaient cru, cela aurait été meilleur pour eux. Certains d'entre eux sont croyants, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. J'ai évoqué le verset que je viens de citer à plusieurs reprises auparavant. Dans ce verset se trouvent un sujet et des conseils et des rappels que l'on doit évoquer à plusieurs reprises, qu'on peut mentionner sous plusieurs angles. Allah évoque ceux qui croient, ainsi que ceux qui protègent leur foi. Des personnes qui ne se contentent pas de dire qu'elles croient, mais qui protègent aussi leur foi. Des personnes qui protègent leur foi et qui la renforcent, des personnes qui font aussi des efforts pour renforcer la foi de leurs descendants. Non seulement qu'ils font des efforts pour la protection de leur foi et de celle de leurs proches, mais ils conseillent aussi d'autres personnes, ceux qui habitent autour d'eux, quelle que soit leur religion. Ils conseillent aussi les athées afin qu'ils puissent accomplir de bonnes œuvres pour la cause de Dieu, afin qu'ils soient parmi les croyants. Dieu a placé de grandes responsabilités dans ce verset sur les épaules des croyants. Des croyants qui disent que nous avons accepté l'imam de l'époque, le serviteur dévoué du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui ont aussi témoigné de leur foi ferme et indéfectible en Dieu. Des personnes qui sont à l'instar des musulmans de la première époque, des personnes qui avaient toujours en tête les commandements du Saint-Coran ainsi que les préceptes du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des personnes qui ont fait des efforts pour mettre en pratique les préceptes de la charia afin qu'elles puissent en retour avoir le plaisir de Dieu. Et par la grâce de Dieu, ils ont eu du succès dans ce domaine. Aujourd'hui, les Ahmadis disent avoir une foi parfaite dans le Saint-Coran et d'avoir une foi parfaite et ferme dans le Saint-Prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Les Ahmadis qui ont accepté l'imam de l'époque afin d'apporter des révolutions dans leur vie et afin de suivre les préceptes du Saint-Coran. En tant qu'Ahmadi, nous devons donc voir jusqu'à quel point sommes-nous en train de nous acquitter de notre devoir de la meilleure Ummah, jusqu'à quel point sommes-nous en train d'accomplir nos devoirs en l'humanité et ressentons-nous une douleur à leur propos, jusqu'à quel point sommes-nous en train d'enjoindre le bien par nos paroles et par nos actions, jusqu'à quel point sommes-nous, par nos paroles et par nos actions, en train de protéger le monde du mal. Nous ne pouvons pas faire cette analyse en fixant la norme nous-mêmes. Nous devons faire cette analyse en ayant en tête l'exemple du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vais évoquer cela après. Et tant que nous allons faire cette analyse, et tant que nous allons essayer de nous réformer, nous allons faire davantage de progrès. Inch'Allah. La décadence des peuples débute lorsqu'ils fixent leurs propres références, lorsqu'ils sont épris par des futilités, lorsqu'ils oublient leur objectif de base. Le Saint-Coran évoque les prophètes du passé et attire notre attention à ce sujet. Lorsque les peuples du passé ont oublié leur enseignement, lorsqu'ils se sont détournés de leur objectif, ils ont été soit détruits ou soit qu'ils se sont pervertis à tel point qu'ils ont remplacé les enseignements fondamentaux par des innovations et des futilités. Des innovations et des futilités qui ont été la cause de leur destruction spirituelle et la cause de l'immoralité. Les vices se sont transformés en vertus à leurs yeux et la vertu et la pureté se sont transformées en enseignements du passé. Ils ont commencé à expliquer par eux-mêmes les enseignements de la religion et ils ont changé complètement les enseignements de leurs prophètes. Ils ont changé les enseignements de la prophète et ont attribué à ces prophètes d'autres enseignements. Conséquemment, ils n'ont plus accordé d'importance à Dieu et ils n'ont pas non plus accordé d'importance au prophète de Dieu. et ils sont morts spirituellement. Voilà l'état des peuples qui vivent ici en Occident. Voilà l'état des suivants des autres religions antérieures à l'islam. Dieu a accordé des faveurs aux musulmans en protégeant le dernier livre de loi, le Saint-Coran, comme il l'a promis. Quelqu'un, avant l'avènement du Messie promis à l'islam, aurait déclaré qu'il n'y a plus de l'islam, qu'il n'y a plus de foi. En dépit de cette situation, il y a eu à toute époque un groupe de personnes, des musulmans, qui ont mis en pratique les enseignements du Saint-Coran et qui ont protégé les enseignements du Saint-Coran. Et dans les derniers temps, Dieu a envoyé le Messie promis à l'islam, tout comme il l'a promis. Il a envoyé le Mahdi. Aujourd'hui, nous, les Ahmadis, nous disons avoir accepté celui-ci, c'est-à-dire le Messie, le Mahdi. Nous disons être de ceux qui soutiennent celui qui est venu faire descendre cette foi des cieux. Nous disons être les suivants de cet imam qui a pris l'engagement de présenter dans les quatre coins du monde les enseignements de l'islam. Et dont la Jamaat va respecter cet engagement. Nous sommes chanceux, quant à nous les Ahmadis, qui avons pris la responsabilité de transmettre le message de l'islam dans les quatre coins du monde. Et il nous a été dit que nous devons y participer afin de faire partie de ce décret. Dieu a dit au Messie promis à l'islam que je vais transmettre ton message jusqu'aux confins de la terre. Et vous, en tant qu'Ahmadi, vous devez participer dans cette tâche afin d'être récompensé par Dieu. Comment faire partie de ce décret de Dieu? Nous allons devoir apporter en nous des révolutions afin que nous puissions avoir le plaisir de Dieu. Nous allons devoir nous consacrer sincèrement à Dieu. Nous allons devoir nous séparer de tout type de péché. Il faudra avoir de la concordance entre nos paroles et nos actions. Si nous possédons les qualités qui ont été évoquées dans ces versets et que nous prêchons ce message qui a été mentionné ici, eh bien, ce message va attirer toute personne de bonne nature. Ici, cela ne veut pas dire qu'on doit tout le temps discuter à propos de la religion ou parler à propos des points qui concernent la religion. Ces paroles qui ont été évoquées ici par Dieu vont attirer aussi des personnes qui sont penchées vers le matérialisme. Toute personne, quelle que soit sa religion ou qu'elle n'ait pas de religion, désire ses excellences morales. La nature de cette personne désire ses excellences et ses bonnes qualités. Même les athées vont dire que les excellences morales sont de bonnes choses et ils vont condamner le mal. Allah nous fait comprendre que nous devons comprendre notre responsabilité et nous devons encourager le bien afin d'avoir le plaisir de Dieu. Et nous devons interdire le mal. Nous devons attirer les gens vers leurs devoirs envers Dieu et être vigilants concernant ceux qui essayent de détourner les gens de leur devoir envers Dieu, de les empêcher de commettre ces maux. Mais avant tout cela, nous allons devoir, nous en premier, faire notre analyse de conscience. Nous allons devoir corriger notre fort intérieur, et c'est là que nos paroles auront de l'effet. Et pour réformer notre fort intérieur, nous devrons toujours avoir en tête le fait que Dieu est en train de voir chacune de nos actions et chacune de nos paroles. Dieu est en train de voir chaque chose que nous faisons. Le croyant doit se dire que je vais devoir enjoindre le bien et empêcher le mal. Mais avant cela, je vais devoir en premier suivre les commandements de Dieu. Je vais devoir en premier croire en Dieu. Tout comme il a été dit, Tu'minuna billah. Voilà comment agissent ceux qui prodiguent des conseils aux autres. La foi en Dieu sera sincère lorsqu'on sentira un plus grand amour pour Dieu et lorsqu'on aura cet argument pour avoir le plaisir de Dieu. Et lorsque cet amour et cet engouement dépasseront de loin tous les autres désirs. Il est dit, « Walladhina amanu ashaddu hubba lillah » Quant à ceux qui croient, ils éprouvent un plus grand amour pour Dieu. L'homme se soucie le plus concernant l'objet qu'il aime le plus au monde. Puisqu'on dit qu'on croit en Dieu, cela veut dire qu'on doit accorder prééminence à l'amour pour Dieu. Et quand on éprouve de l'amour pour Dieu, cela veut dire aussi que l'on doit accorder préférence à ses commandements. Après notre analyse, nous comprendrons qu'être le meilleur peuple ne signifie pas uniquement croire en Dieu. Cela ne va pas nous pousser à atteindre notre objectif. L'on sera le meilleur peuple lorsqu'on va progresser dans cet amour pour Dieu. Et pour avoir le plaisir de Dieu, on va devoir enjoindre le bien et interdire le mal. C'est là qu'on sera considéré comme le meilleur peuple. Lorsque le croyant va progresser dans ce domaine, la première chose qu'il va se demander est « Est-ce que je possède les vertus que je suis en train de prêcher ?» Est-ce que je suis coupable de ce mal que je suis en train d'interdire? Il va déclarer que je déclare que je crois en Dieu. Je déclare aussi que je l'aime en raison de cette croyance. Et lorsqu'on aime quelqu'un, on ne peut rien à lui cacher, on doit tout lui manifester. L'on connaît les secrets des uns et des autres. Dieu est celui qui connaît le visible et l'invisible. Il est Alimul Ghaibi wa Shahad. Ce n'est pas la peine de l'informer. Il connaît ce qui est visible et ce qui est invisible. Dieu déclare que vous déclarez d'une part que vous croyez en moi et que vous m'aimez. Je connais l'état de votre cœur. Je suis en train de voir ce qui s'y trouve. Vous n'êtes pas en train d'accomplir ces actions que vous êtes en train de prêcher. Ainsi donc, ce système interne d'autoprotection va guider le croyant dans la bonne direction. Ce système va le guider dans la direction s'il a la certitude que Dieu est Alimul Ghaib wa Shahada et que Dieu est en train de regarder chacune de ses actions, à condition qu'il a cette foi. Si ce système d'autoprotection n'est pas activé en nous, nous aurons des soucis à nous faire, car notre foi n'est pas selon la norme requise. Ce système est en train de présenter l'image de chaque défaut et de chaque vice. Mais on verra ce miroir lorsqu'on aura en son fort intérieur cet amour pour Dieu. Si l'on ne ressent pas ce sentiment d'amour pour Dieu, si cet amour pour Dieu n'a pas prééminence, si le monde règne en maître dans notre cœur, l'échelle concernant le bien et le mal va changer. Il y a dans la communauté des traditions et le Messie promis et les califes qui l'ont suivi ont établi les traditions islamiques à plusieurs époques. Il y a au sein de la communauté certaines actions qui sont prohibées. On est sévère à ce sujet. Parce que le véritable croyant doit comprendre l'objectif de sa vie. Et l'objectif de sa vie est de suivre ce qui est juste, d'accomplir de bonnes œuvres. Sans cela, l'on ne pourra pas encourager le bien et l'on ne pourra pas non plus interdire le mal. Puisque vous vous êtes joint à l'imam de l'époque afin d'apporter en vous des changements purs et afin de faire partie du meilleur peuple, eh bien, il va falloir mettre de côté tout penchant matérialiste. Vous ne pourrez pas fixer par vous l'échelle de la vertu. La norme concernant la vertu est celle qui nous a été enseignée par l'islam, celle qui nous a été expliquée par le Messie promis à l'islam, lui qui a reçu ses directives de la part de Dieu, lui qui a encouragé les membres de sa communauté à mettre en œuvre ses actions. C'est quelque chose de très important que tout Ahmadi doit comprendre. Quelques jours de cela, dans une jamaat d'un pays, lors d'un mariage, il y a eu certaines pratiques qui sont contraires aux traditions de la jamaat. C'est pour cette raison que j'ai pris des mesures disciplinaires concernant ces personnes. Il y avait certaines d'entre elles qui n'avaient pas grande connaissance de la religion. Il y avait des personnes qui ne connaissaient pas les traditions de la jamaat. Ce n'est pas là une excuse. Tout Ahmadi doit exprimer sa foi et doit faire des efforts en ce sens. Mais il y avait d'autres personnes qui étaient présentes et qui avaient une connaissance de la foi, de la religion, des personnes qui étaient en train de servir à la communauté, des personnes qui connaissent les traditions et les enseignements de la communauté. Toutes ces personnes ont participé dans ce mariage et ont fait preuve de laxisme et de faiblesse. Au lieu d'interdire le mal, ces personnes se sont assises là-bas et ont tout suivi comme des spectateurs et ont regardé ces futilités sans rien dire. Et au lieu d'interdire le mal, ces personnes y ont contribué. Après cela, elles m'ont écrit en disant que nous avons participé là-dedans afin de réformer ces personnes. Réformer les autres signifie-t-il ne pas interdire le mal et ne pas enjoindre le bien. Et même si vous avez enjoint le bien, vous l'avez fait à propos d'autres sujets. Est-ce cela la réforme que de participer dans ce mal et d'être témoin de ce mal et de dire que je suis en train d'enjoindre le bien? Je ne sais pas si l'on fait ou pas, mais en tout cas, ces personnes n'ont rien fait pour interdire le mal que l'on commettait là-bas. Elles ont encouragé d'autres biens. C'est comme si l'on est en train de voir un voleur voler quelque chose et au lieu de l'attraper, au lieu de l'empêcher de voler un autre, au lieu de protéger les biens d'autrui, on aide ce voleur pour ensuite le conseiller à dire la vérité. Certes, dire la vérité est une vertu, mais dans cette situation, enjoindre le bien et interdire le mal signifie arrêter la main de ce voleur et l'empêcher de voler. Si vous avez accepté le Messie promis à l'Islam, vous ne devez pas craindre la société en tant qu'Ahmadi. En tant qu'Ahmadi, on doit accorder prééminence à sa foi. Le Messie promis à l'Islam a prié pour que Dieu protège ses enfants et ses suivants de l'influence de l'Antéchrist. Si ceux qui habitent en Occident sont tombés sous l'influence de l'Antéchrist, que restera-t-il de leur foi? Beaucoup de personnes ont été impliquées dans cet incident que j'ai évoqué. Et on m'a fait savoir que si un grand nombre de personnes seront impliquées, cela va créer du désarroi dans la communauté. Mais je leur ai répondu que l'on va certainement prendre des mesures disciplinaires à l'encontre de ces personnes qui sont impliquées. Si cela sera cause de désarroi que ces personnes s'écartent de la communauté. Ces personnes peuvent partir, je m'en soucie guère. Nous allons quant à nous suivre l'enseignement de l'islam tel qu'il nous a été présenté par le Messie promis l'islam, c'est-à-dire qu'on doit éviter toute forme de futilité. Les contradictions entre les discours et les actions sont condamnées par Dieu et par son prophète. Je l'ai dit à plusieurs reprises auparavant, et les califes qui m'ont précédé ont répété la même chose, à savoir que les Ahmadis doivent quitter ces mariages et ces réceptions organisées par les familles Ahmadis où l'on est en train de commettre ces frivolités. Sinon, ce sera de la couardise et vous serez en train de soutenir le mal qu'on est en train de commettre. Par cette action, vous allez accorder préférence l'amour à la société sur l'amour pour Dieu. Que Dieu fasse que tout Ahmadi puisse comprendre ce sujet. Je veux maintenant présenter un hadith du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un hadith qui va nous faire comprendre le niveau que doit atteindre un croyant. Ce hadith nous dresse les cheveux sur la tête. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré, et c'est un hadith qui a été cité par Hadrat Abdullah bin Amr, qui raconte que le saint prophète a dit « Quiconque possède les quatre caractéristiques suivantes est un vrai hypocrite, et quiconque possède l'une de ces caractéristiques a un trait d'hypocrisie en lui jusqu'à ce qu'il délaisse cette habitude. Ses caractéristiques sont, lorsqu'il prend un engagement, il ne le respecte pas. Lorsqu'il prend un engagement, il ne le respecte pas. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il fait une promesse, il la brise. Et quand il discute, il commence à utiliser un langage grossier. Hadrat Sayyid Waliullah Shah Saheb a compilé les hadiths de Sahih Bukhari au sein de la communauté. Il a commenté à ce sujet. Il déclare que la foi est affectée par l'hypocrisie, tout comme elle peut être affectée par l'incroyance, par le polythéisme et par toute action condamnable. L'hypocrisie porte atteinte à la foi. Lorsqu'une personne possède une caractéristique évoquée plus haut une après l'autre, sa foi va décroître et l'hypocrisie va grandir. L'hypocrisie signifie la contradiction entre l'intérieur et l'extérieur, c'est-à-dire manifester des opinions que l'on n'a pas au cœur ou contredire la vérité. Voilà l'explication concernant l'hypocrisie. Il y a tout d'abord le mensonge, il y a aussi le fait de ne pas tenir ses promesses, il y a aussi l'intention d'être malhonnête. Tout cela contredit la vérité et la réalité. Ne pas respecter ses engagements et insulter les autres va aussi à l'encontre de la réalité. Voilà de gros exemples concernant l'hypocrisie. Ne pas posséder la foi et manifester la foi sur la langue uniquement et contre la réalité. Posséder la foi et ne pas la manifester va à l'encontre de la réalité. Il y a beaucoup de personnes qui disent que nous avons accepté le Messie promis, mais ces personnes ne veulent pas manifester leur foi. C'est là une forme d'hypocrisie. Il y a d'autres qui possèdent la foi, mais qui n'agissent pas selon ses préceptes. Leurs actions vont à l'encontre de la foi. C'est là une autre forme d'hypocrisie. Voilà donc les divers aspects du nifaq ou de l'hypocrisie. Les faits qui ont été mentionnés dans ce hadith du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam sont aujourd'hui monnaie courante. Nous voyons ces actions partout autour de nous. Et malheureusement, certains d'entre nous ont été influencés par la société, par ces mots, ou en sont affectés. Selon le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, posséder une de ces caractéristiques signifie faire de la place à une partie de son cœur à de l'hypocrisie. C'est peut-être pour cette raison que le Messie promis à l'Islam a déclaré que si les hypocrites de l'époque du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, vivaient à notre époque, ils seraient considérés comme des personnes très pieuses et des croyants. Parce que quand le mal s'accroît, le peu de vertu a de grandes valeurs. Et ceux qu'on considérait comme des hypocrites étaient des hypocrites face à des grands compagnons du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Mais que l'on se souvienne aussi qu'après avoir accepté le Messie promis à l'Islam, notre niveau doit être beaucoup plus élevé que les autres musulmans. Nous ne devons pas suivre l'exemple de ceux qui étaient faibles de foi à l'époque du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons avoir en tête l'exemple des compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des personnes à qui Dieu a donné la bonne nouvelle qu'il leur accordera son paradis et qu'il sera content d'eux. Voilà le niveau que nous devons atteindre. Voilà le niveau requis par Dieu et son prophète. Nous devons faire preuve d'une grande intégrité. Que cela concerne les engagements dans la société ou les engagements au sein de la communauté ou des engagements personnels, nous allons devoir respecter nos engagements. Qu'on soit un fonctionnaire, quelles que soient les actions de ses collègues, on doit se démarquer des autres dans ses actions. Si vous travaillez dans une compagnie privée, vous devez vous démarquer des autres et être différent des autres en tant qu'Ahmadi. Nous disons aujourd'hui aux autres avec fierté que l'intégrité des Ahmadis dépasse de loin celle des autres. Mais une meilleure intégrité n'est pas cause de fierté. Cette intégrité, cette honnêteté doit être ou doivent être du plus haut niveau. Dans les pays du tiers-monde, où le progrès est presque inexistant, dans certains pays, le progrès est négatif, tout cela est parce qu'il n'y a pas d'intégrité à aucun niveau. À chaque niveau, les gens sont malhonnêtes. Prenez l'exemple du Pakistan, qui est présenté comme un pays musulman, mais selon les derniers chiffres, le Pakistan est monté plus haut dans la liste parmi les pays les plus corrompus au monde. Il y a aussi d'autres pays musulmans, ou des musulmans de certains pays, là où il y a des musulmans qui sont au pouvoir et qui sont malhonnêtes. Est-ce qu'il suffit de se dire musulman pour être considéré comme le meilleur peuple ? Annoncer l'application des lois islamiques suffit-il pour être considéré comme le meilleur peuple ? Ces personnes ne possèdent pas quelques défauts, quelques vices. Au contraire, ces personnes sont coupables de toutes les vices du monde, mais se considèrent comme des croyants et considèrent les véritables croyants comme mécréants. Le Messie premier, l'Islam, a déclaré à propos de ces soi-disant croyants d'aujourd'hui que les hypocrites de l'époque du Saint-Prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam sont meilleurs que ces soi-disant musulmans, ces soi-disant croyants. Il incombe aux Ahmadis d'atteindre ce niveau requis d'intégrité et de protéger cette honnêteté. Cette honnêteté dont le garant était le Saint-Prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Seul un Ahmadi pourra s'acquitter de ses devoirs à ce sujet, afin qu'il soit considéré comme un membre du meilleur peuple. Et pour cela, il va devoir être un exemple pour les autres. Et il va devoir prodiguer des conseils aux autres. Et va devoir montrer l'honnêteté présentée par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont devoir enjoindre le bien et interdire le mal. Voilà la responsabilité qui a été confiée aux Ahmadis. Aujourd'hui, les Ahmadis doivent se porter garants de cette intégrité et de cette responsabilité. Et pour cela, ils vont devoir se réformer en premier. C'est en s'acquittant de ses devoirs envers Dieu et de ses devoirs envers les créatures de Dieu qu'il pourra s'acquitter de ses devoirs envers ses engagements. C'est en faisant l'éducation de ses enfants qu'il pourra agir ainsi, afin qu'il puisse transmettre aux prochaines générations l'esprit de cette intégrité. Le saint prophète a déclaré à propos des hypocrites qu'ils mentent. C'est là un avertissement sévère concernant ces personnes qui mentent. Cela démontre qu'il y a une certaine contradiction entre les paroles et les actions. Et cette contradiction est synonyme d'hypocrisie. D'une part, l'on dit que l'on croit en Dieu. D'autre part, il y a le mensonge. On a mis à pied d'égalité le mensonge et Dieu. C'est pour cette raison que Dieu a évoqué au même endroit le mensonge et le polythéisme. On l'a évoqué dans le même verset, le mensonge et le polythéisme. La personne qui possède ces deux qualités ou qui se contente de mentir sera considérée comme polythéiste. Et si l'on dit que l'on croit en Dieu et que l'on ment, ce sera de l'hypocrisie, ce sera de la fausseté, de la fauberie. Au lieu de croire en Dieu, on va se rapprocher du polythéisme. Cette personne va dire avec la bouche que je suis un croyant, mais ses actions vont contredire ses paroles. Malheureusement, aujourd'hui, la majorité des musulmans ont oublié cette distinction entre la vérité et le mensonge. Aujourd'hui, si les Ahmadis n'ont pas fait un djihad à ce sujet, s'ils n'essayent pas de purifier leur âme et leur société, ils seront coupables d'une vilenie qui n'a aucun trait avec l'islam ni avec la jamaat du Messie promis à l'islam. Le Messie promis à l'islam est venu pour réformer l'humanité. Il est venu pour rétablir la charia. Il est venu pour que les gens puissent se parer des couleurs de Dieu. Il est venu afin que les gens puissent suivre l'exemple du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Si nous, en tant qu'Ahmadis, nous continuons à mentir après l'avoir accepté, comment pourrons-nous établir la charia? Comment pourrons-nous traduire dans la pratique toutes ces déclarations que nous faisons? Nous devons donc faire, chacun d'entre nous, une analyse de conscience. Au lieu de regarder les autres, nous devons analyser notre propre intérieur. Le troisième point mentionné par le saint prophète ici est que l'hypocrite brise ses engagements. Lorsqu'il prend un engagement, il manque à ses engagements. Tel est l'état du monde aujourd'hui. L'on manque à sa parole dans les affaires, l'on rend ses engagements de la vie quotidienne. Il y a de la fauberie au niveau national, et cette fauberie, cette hypocrisie a atteint des niveaux inimaginables. Lorsqu'on signe des engagements pour les affaires et le commerce, l'on ne les respecte pas. Et il y a une personne qui exporte du riz basmati du Pakistan. Cette personne m'a fait savoir qu'elle mélange du riz non basmati, du riz qu'on appelle du riz iri, avec du riz basmati de grande qualité, et on exporte cela du Pakistan, et personne ne sait ce qui se passe. Ces personnes ne se soucient guère si leurs commerces seront affectés après, si l'on découvre cette mauvaise pratique. Ces personnes ne se soucient pas si le pays tout entier sera déshonoré. Il y a d'autres actions similaires. Donc, ce n'est pas uniquement une forfaiture, mais il y a aussi de l'infidélité. Ces personnes ne respectent pas leurs engagements tout simplement pour avoir quelques sous. Quel était l'espoir de ce prophète qu'ils disent suivre? Quel était son exemple à lui? Il a pris des engagements, généralement au cours de la vie quotidienne, et il a aussi signé des traités de paix. Et on ne trouve pas d'exemple pareil dans le monde. Il est dit, par exemple, concernant le traité de Hudaybiyah, que le saint prophète avait accepté que les musulmans qui viendraient de la Mecque seront renvoyés là-bas. On n'avait pas encore écrit cette clause du traité quand, au même moment, un musulman est venu, qui était venu de la Mecque. Il avait déjà accepté cette condition du traité verbalement et il a demandé à ce musulman de partir à la Mecque, alors qu'il savait très bien que sa vie sera en danger là-bas. Voilà le niveau d'équité et d'honnêteté du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, les suivants du Messie promis alayhi sallam doivent atteindre ce même niveau. Le saint prophète a enfoncé sa main dans un tas de blé ou dans un tas de grains dans le marché et il a ressenti que ces grains étaient humides à l'intérieur. Et il a dit aux commerçants qu'il est en train de tromper les gens et que cela ne sied pas aux musulmans. Voilà donc le niveau que nous devons atteindre. C'est là que nous pourrons avoir une foi ferme en Dieu. C'est là aussi que nous pourrons prodiguer de véritables conseils aux autres. Il a aussi déclaré que l'hypocrite, lorsqu'il discute, il profère des injures. Nous voyons cette qualité parmi nos détracteurs. Cela est évident grâce à leur chaîne de télé sur leur site web où ils nous attaquent. Il incombe aux Ahmadis d'éviter pareille action. Ce sont les caractéristiques des hypocrites et ces caractéristiques appartiennent aux ennemis des Ahmadis et les Ahmadis doivent s'en prémunir et l'on ne doit pas répondre à ces énormités en prononçant des paroles insultantes. Nous devons tout le temps avoir en tête l'exemple de notre maître Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et nous devons avoir l'exemple de son serviteur parfait. Les gens lui ont traité de tous les noms, mais jamais il n'a répondu par un même langage. Au contraire, il a tout le temps accordé son pardon. Le saint prophète était une miséricorde pour l'humanité. Il a répondu aux paroles dures avec aménité. Que Dieu fasse que tous les Ahmadis puissent se protéger de ces maladies. Ces maladies qui peuvent détruire la foi. Et que nous puissions tout le temps enjoindre le bien et interdire le mal. Aujourd'hui, malheureusement, la majorité des musulmans sont frappés de ces maladies et c'est pour cette raison qu'ils sont déshonorés. Mensonges, faubris, infidélité, ne pas respecter ses engagements ont détruit la paix de la société. Et dans la plupart des pays musulmans, il y a une lutte entre les populations et les gouvernants et les politiciens. Tout cela est le résultat de cette hypocrisie. Des signes qui ont été évoqués par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les non-musulmans profitent de cette hypocrisie pour déshonorer davantage l'islam et pour critiquer l'islam davantage. Il y a un juif qui a écrit un éditorial dans un journal israélien en disant entre autres que les enseignements de l'islam ne prônent pas la paix et que cela est évident grâce aux actions des musulmans. C'est-à-dire que les enseignements de l'islam sont contraires à la paix. Et il a déclaré que les enseignements de paix se trouvent dans le judaïsme et dans le christianisme. Et si l'on trouve mention de la paix parmi les musulmans, eh bien cela concerne qu'une minorité. C'est là quelque chose de très douloureux. Leurs enseignements à eux préconisent la brutalité. Et ici, en raison des actions des musulmans, ils sont en train de critiquer les enseignements de l'islam. Nous ne devons pas nous contenter de dire que cette minorité concerne les Ahmadis ou que cette minorité concerne certes des musulmans. Et le fait de faire partie de cette minorité signifie que l'on n'a pas été déshonoré. Notre joie sera réelle lorsque la majorité des non-musulmans vont dire que c'est en raison des enseignements de l'islam que la paix et la fraternité sont en train de se répandre dans le monde. Ce sont des accusations mensongères à l'encontre de l'islam et ils ne cessent de répéter ces accusations et les musulmans ne s'en soucient guère. Et c'est quelque chose de très déplaisant pour nous. Notre joie sera réelle lorsque le monde dira que les enseignements du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam sont des enseignements d'amour, de paix, de fraternité et que c'est grâce à ces enseignements que l'on pourra établir la paix sur terre. Aujourd'hui, il nous incombe de prier afin que la Oumma puisse comprendre cela et qu'il puisse faire partie du meilleur de la Oumma et que nous puissions nous acquitter de nos devoirs. Avant de terminer, j'ai un éclaircissement à faire concernant une référence que j'avais citée dans mon précédent sermon et qui concerne Abu Lahab. J'avais dit qu'il avait insulté le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam et qu'il a été tué par des animaux sauvages, par des loups. Et que cela fut donc en raison des outrages contre la personne du saint prophète. Il y a eu là une méprise. Généralement, je vérifie moi-même les références que je cite du Saint-Coran, des hadiths ou des dires du Messie promis. J'ai lu cela dans un article écrit par un de nos oulémas et je n'ai pas vérifié la référence. Mais grâce à cette erreur, l'on a vu quelque chose de plus. Cela ne concerne pas Abu Lahab, mais son fils Utaïba, qui a été tué. Il est dit à propos d'Abu Lahab que 7 jours après la bataille de Badr, la prophétie de cette sourate Abu Lahab a été réalisée. Il est décédé d'une maladie, son corps a commencé à empester. Craignant l'humiliation, ses proches ont fouillé un trou et ont poussé son cadavre dans ce trou et ont jeté des pierres sur son corps. Voilà donc comment Dieu s'est venché. Selon Tabari, il est dit qu'il y a eu des pustules sur le corps d'Abu Lahab et il en est décédé et ses fils ne l'ont pas enterré après 2 ou 3 jours. Et son corps a commencé à empester et ils l'ont enterré très loin. En tout cas, sa fin fut mauvaise. La fin de son fils Utaïba fut mauvaise. Utaïba s'était marié à la fille du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, Umm Kulthum. Il est dit qu'il devait partir pour la Syrie. Et avant cela, il est venu tourmenter le saint prophète. Il a dit que je rejette la sourate Najm. Et pour insulter le saint prophète, il a craché devant le saint prophète et a divorcé de sa fille. Le saint prophète a prié contre Utaïba. Au cours de ce voyage, il a été tué par des loups ou par des lions. Ensuite, je dois évoquer le décès de M. Rashid Ahmad Bhatt et je vais diriger sa prière funéraire après la prière de Jumma. Il était le fils de Mia Muhammad et était de Lahore. Il est décédé le 18 octobre 2010 à l'âge de 71 ans. Il était malade du cœur. Il a été blessé par balle le 28 mai à Lahore lors des attentats. Il était dans la mosquée d'Arozikar. Il a été transféré à l'hôpital après les attentats. Il y est resté un jour. Il avait perdu beaucoup de sang. Il était très faible. Et cela a affecté son cœur. Il a servi comme secrétaire Jishanata, secrétaire Islaouchad, Zayman Sarullah. C'était une personne très pieuse, une personne qui aimait prêcher le message de l'islam et de l'Ahmadiyya. Il était sincère et il était aussi un homéopathe et il aimait aider les autres et des milliers de personnes ont profité de ses soins. Il était toujours fidèle envers le califat et il attribuait chacun de ses succès aux prières du calife. Après les événements du 28 mai, il a dit que j'ai vu un objet qui flottait dans le ciel. J'ai voulu savoir ce qu'il y avait et j'ai vu qu'il y avait à l'intérieur des étoiles. J'ai vu cela pendant un long moment et après cela, cet objet est monté au ciel. Et j'ai ressenti en mon cœur que c'était les martyrs qui sont tombés ce 28 mai à Lahore. Et il a dit que par la suite, j'ai prononcé mon sermon concernant les martyrs et que ce sermon fut une source de consolation pour lui. Qu'Allah exalte son statut et qu'Allah accorde patience à ses enfants.